Bonjour. C'est un gros sujet que nous abordons aujourd'hui. Je voulais d'abord préciser une chose, c'est qu'il a été dit que j'avais choisi cet extrait. En fait, je l'ai choisi par procuration, puisque lorsqu'il a été fait cas ou fait idée de projeter un extrait de film, je me suis dit qu'est-ce qui, dans l'univers d'Antonio Tabucchi, puisque c'est la figure tutélaire de ces rencontres, pourrait faire sens. J'ai hésité, à vrai dire, entre un extrait de La Dolce Vita, qui a joué un rôle extrêmement important dans la vie, dans le parcours d'Antonio Tabucchi, lui donnant le désir à l'époque devant l'intuition des horreurs dont l'Italie moderne pouvait être porteuse, lui donnant donc le désir de venir passer un an à Paris. Et c'est au retour de cette année passée à Paris que, à la gare de Lyon, il achète un petit texte qui venait d'être traduit, qui était le Bureau de tabac de Pessoa, qui va beaucoup infléchir son parcours. Mais je me suis aussi souvenu de discussions qu'on avait eues parfois, notamment sur les tentes, sur la relation, ce qu'on appelle un peu précieusement la relation avinculaire. Il y a eu des textes importants de Claude Lévi-Strauss, notamment sur les sociétés avinculaires, c'est-à-dire cette figure importante dans la transmission de la tante, de l'oncle. Alors il y a les oncles de Sandrard, mais il y a aussi les tantes de ce récit de Joyce, The Death, qui clôt, si je me souviens bien, les Dubliners, les gens de Dublin. Et voilà, peut-être je sais que Antonio aime beaucoup ce film. C'est donc par procuration que j'ai choisi ce morceau de film, mais je pense qu'il te revient plus qu'à moi de le commenter, si tu veux bien te lever et prendre ton micro au lieu de t'asseoir dessus.
Oui, bonsoir. Ah, merci. Bonsoir à tous. Merci Bernard, tu me laisses la tâche donc de commencer cette conversation qui est intéressante, mais qui est difficile et ambigu, si tu veux, parce qu'il y a une flèche qui court dans des directions différentes, disons. On a toujours pensé que c'est la littérature qui... et c'est vrai, la littérature est une source du cinéma, une grande source, parce que le cinéma, comme la littérature, disons, raconte des histoires, et donc c'est normal que... Et les cinéastes ont toujours cherché, sauf ceux qui inventaient eux-mêmes un sujet de narration, les histoires là où ils se trouvent, c'est-à-dire dans le dépôt, là, dans le grand ventre de la littérature. Ça c'est normal. Mais c'est vrai aussi que penser que la littérature, pour cette raison, influence le cinéma, et ça c'est vrai aussi, parfois empêche de penser le contraire, c'est-à-dire combien et comme le cinéma a influencé le roman moderne, qui est toute autre chose, comme on sait, une créature complètement différente du roman du 19e siècle. Or, commencer par Joyce, c'est bien. J'aurais bien aimé que Joyce, mais ça c'est trop joué avec le temps et le jeu de l'envers, puisse voir le film Houston et réécrire les Jean de Dublin. Jean de Dublin, la première considération qui me vient, disons, à l'esprit, la première réflexion, c'est que, entre les œuvres de Joyce, Jean de Dublin, c'est l'œuvre que j'aime le plus, mais... la première considération qui pense mérite une réflexion est que Jean de Dublin est une narration assez traditionnelle. Ce sont des récits qui suivent, disons, un schéma de la narration du 19e siècle. Là, il y a une Irlande pleine de tendresse, un regard plein de tendresse de joie sur l'Irlande. C'est cette confiance que l'Irlande puisse lui transmettre à travers la famille, l'ambiance, la tribu, disons, une espèce de sagesse, d'illumination pour décrypter la vie, pour comprendre. Et je pense au contraire que la compréhension de Joyce de sa ville, Dublin, est très faible dans Jean de Dublin. Il a posé un regard vraiment très affectueux, plein d'émotions, sur les personnages modestes parfois, ingénus de sa ville, mais il n'a pas encore compris l'Irlande, l'esprit de l'Irlande. La compréhension vient quand il part, quand il est loin, quand il va en exil, quand il abandonne l'Irlande. En plus, en laissant une page très très violente, une espèce de, disons, de prix de distance, un pacte qu'il signe en disant j'en veux plus, j'en ai marre de vous, de cette ambiance mesquine, cette mentalité vraiment qui est une prison, etc. Le catholicisme, là. Tout ce que nous avons vu ici. Et sa vision sur Dublin, sur l'Irlande, change d'une manière radicale. Et ça, on le voit dans Ulysse. Vraiment, il a une inquiétude, une espèce de haine contre l'Irlande. D'ailleurs, je n'ai jamais compris pourquoi les Irlandais fêtent tous les mois de juin ou juillet, les jours de Joyce, en faisant des cortèges, en buvant de la bière, ils ne se sont pas encore aperçus que c'est vraiment une pierre contre l'Irlande sur leur tête. À chacun son choix et son goût. Mais, je dirais, ça c'était une considération à part. C'est la substance. Mais, dans un bref espace d'années, la narration, la technique narrative de Joyce a changé d'une manière radicale. Et on peut se demander pourquoi, vraiment. Personnellement, je pense que l'influence du cinéma, qu'il commence à voir hors de l'Irlande, à Trieste, en Italie, en Suisse, en France, etc. Bon, vraiment, ça a changé d'une manière absolument radicale, sa manière de raconter sa technique. Et d'ailleurs, le fait qu'il a inscrit une unité de temps, de lieu d'action à la manière aristotélicienne dans son Ulysse, enfin, un roman énorme, etc. C'est un parcours qui a un montage très spécifique, des monologues qu'on appelle des monologues intérieurs, mais qui en effet sont des voix off qui arrivent dans les romans et qui commencent à parler, et c'est une autre voix, à la voix des les monologues de Molly, etc. Ça, c'est de la pure cinématographie, je pense. Et donc, voilà, ça sont les premières deux suggestions que réflexions que j'ai voulu laisser. Mais à propos de ça, comme passo la palla perché io, per, facciamo un, ten, un tennis, 1, 2, 3, 4, 5, tant'è che je parlais, je me suis rappelé une autre chose. Et là, alors, je passe immédiatement la palla a Florent. C'est parce que c'est une question, une hypothèse. Lorca, Lorca. Les changements radicaux dans la poésie de Lorca, des romanceros gitanos et toute sa poésie jusqu'à, disons, la ode à New York, de New York, disons, la période qu'on appelle surréaliste. Alors, et naturellement, le petit scénario, le voyage sur la Lune, qu'il laisse inédit à sa mort et qu'il aurait voulu transformer en film. Et que je pense qu'il a publié en français. Donc, alors, l'autre hypothèse des conversations, est-ce que cette période de Lorca surréaliste, les ordres de New York, etc., ne dénote pas une influence cinématographique de ses compagnons, Salvador Dali et Buñuel, avec lesquels il avait créé un club d'amitié très très forte. Ou ça sera simplement, disons, le surréalisme littéraire et pas cinématographique. Moi, les images qu'il lance sur la page, surtout quand il regarde la foule, et il est sur les gratte-ciels de New York, etc., ces images visionnaires, etc., ça me semble vraiment venir du cinéma de Buñuel. Voilà, je vous invite.
Je n'aurai pas beaucoup de travail, c'est très bien, la parole va circuler. Donc, Florence Delay, qui n'est pas seulement romancière, qui est aussi une grande spécialiste, essayiste, grande connaisseuse de littérature espagnole, précisément, je sais que la modestie est toujours mise à mal dans ce genre d'exercice. Je reviendrai tout à l'heure quand même aussi sur la carrière ou les expériences de comédienne, mais en tant que grande connaisseuse de littérature espagnole.
Je vais répondre à Antonio. Personnellement, je ne crois pas. Ils sont réunis à la résidence d'étudiants de Madrid, ils sont jeunes, ils s'aiment beaucoup. Et puis, il y a une rupture très forte quand Federico publie le Romancero Gitan. Parce qu'ils trouvent que c'est vieux. Ils n'ont absolument pas compris que c'était tout simplement populaire. Eux sont dans les avant-gardes. Ils ne comprennent pas que lui aussi, en retournant en arrière. Et on pense même que le chien andalou, c'est contre lui. C'est lui, ce chien d'andalou, qui a écrit le Romancero Gitan. Donc, à mon avis, il y a rupture à ce moment-là. Et je crois que l'autre Federico, qui n'est pas celui du Romancero, c'est le choc carrément de New York, de la ville, de la liberté sexuelle, de Walt Whitman. Et je ne le vois pas passer par le cinéma. Bon, mais encore une fois, je suis pas spécialiste. Pour l'autre chose. Vous disiez que c'était votre préféré, Jean Dublin. Bon, moi aussi. Et je crois que ça, c'est Les Morts. C'est la dernière nouvelle de Jean de Dublin. Je pense qu'avec une matière déjà très sophistiquée et éclatée, comme Ulysse ou comme le suivant, Finnegan's Wake, jamais John Huston aurait pu faire ce chef-d'œuvre, ce complément d'histoire. Bon, il part d'une narration finalement plus classique, le premier Joyce. Et autrement, c'est impossible de partir de Ulysse. Et puis dernière chose, je trouve que le monologue intérieur ne vient pas du cinéma, il vient de la littérature, il est inventé par un Français, les lauriers sont coupés. Valérie Larbeau va croire de son côté qu'il l'a inventé. Et puis quand il sait que c'est pas lui, il est tellement modeste qu'il redonne. Et c'est après, effectivement, parce que Larbeau traduit le monologue de Molly Bloom à la fin de... qu'on va croire que cette forme va se répandre. On est dans les années 20. Et ce monologue intérieur rend tellement furieux certains écrivains, comme Giraudoux, qui trouve que c'est de la bouillie pour les chats, que Giraudoux va créer le monologue extérieur. Bon. Mais en fait, le monologue intérieur vient de tous les stances. Déjà, Rodrigue, finalement, dans ses stances, fait un monologue intérieur. Donc, je pense que c'est plutôt le cinéma, là, qui a... Bon, voilà à peu près pour répondre, Antonio, sur ces points-là.
J'avais promis que j'aimais plus le Jean de Dublin pour éclaircir une chose qui n'est pas nécessairement, disons, les œuvres littéraires influencées, disons, par les cinémas sont mieux que les autres qui sont, comment dire, absolument pures et vierges, disons. Ça, c'était mon intention. Là, sur leur cas, je ne sais pas, et peut-être que vous avez raison, même si je pense que une rupture d'un point de vue de l'amitié, de la camaraderie, n'empêche pas que Lorca a subi une fascination énorme du cinéma, et ça d'ailleurs est révélé par ce petit scénario qu'il laisse. Inédit, Le voyage sur la Lune, qui est une espèce d'imitation, disons, et en écriture des films surréalistes de Buñuel. J'ai vu une chose curieuse, parce que quand il y a eu le centenaire de Lorca, j'ai eu l'occasion en Espagne, à Granada, de voir un court-métrage d'un jeune espagnol, un jeune cinéaste espagnol, dont je ne me rappelle pas le nom, qui a réalisé le scénario de Lorca. C'est vraiment curieux, parce que un scénario surréaliste, vraiment avec une empreinte surréaliste très forte, laissé en 36, a été réalisé dans les années 90, voilà, à la fin des années 90, par un jeune homme qui a un langage, je suppose, je vis une autre petite chose de lui, complètement différent de l'époque.
Peut-être deux petites remarques. D'abord, effectivement, ce changement, cette rupture chez Joyce, on peut observer que la scène de la réception de Noël chez les tantes est daté Dublin 1904 et que la journée de Léopold Bloom est aussi de 1904. On est dans la même année, mais dans deux univers et dans deux esthétiques extrêmement différentes. Récemment, il y a un livre très intéressant, mais très déceptif au fond, qui a été traduit en français, je crois, chez Grasset, qui s'appelle « Proust au Majestique ». Et qui évoque une grande réception qui avait été donnée par de riches Américains en 1918, je crois, où se trouvaient notamment Joyce et, tardivement, arrivé, surgi un peu au milieu de la nuit, Proust. Je parle de Proust parce que je pense qu'il est aussi quelqu'un qui, à mes yeux, a dû beaucoup ressentir l'influence du cinéma, aussi bien, j'ai toujours trouvé très cinématographique l'anecdote, mais avérée, de ces expéditions nocturnes en voiture, où il faisait éclairer dans le mouvement de la voiture, comme ça, arrivant devant les cathédrales et faisant éclairer la façade et les sculptures, les bas-reliefs des cathédrales, comme ça, dans ce mouvement de la lumière qui me semble être un geste et une projection assez cinématographique. De la même façon que, quand on y prête attention, dans La recherche du temps perdu, il y a ce qu'on pourrait appeler une espèce de regard en mouvement, toujours, ce qui me semble ressortir peut-être d'une esthétique du cinéma, et de façon très exemplaire, la scène archi-connue des clochers de Martainville, qui est, de façon très rare en littérature, dédoublée, puisque vous avez une première description de cette scène tout à fait classique, et devant l'émotion que lui procure cette scène, le narrateur écrit quelque chose dans un carnet, et alors ce qu'il écrit à ce moment-là, qui est reproduit juste après dans le texte de la recherche, est très différent et très moderne, puisque à ce moment-là, la description de choses réputées aussi immobiles que des tours de clocher sont toutes décrites avec des verbes de mouvement. Et cette transposition vers des verbes de mouvement m'a toujours paru être au centre de l'esthétique proustienne et révélatrice sans doute d'un intérêt ou d'une stimulation par le cinéma. Juste,
je ne pense pas que l'asthme ait pu lui permettre d'aller au cinéma.
Non, mais enfin, il connaissait beaucoup de choses indirectement. Hein. Il y avait une pratique importante. Et je crois que, à mes yeux, Raoul Ruiz a génialement restitué ça dans son adaptation lors de la scène de musique de chambre où vous avez le petit orchestre qui est placé sur un plateau qui tourne. Et cette espèce de mouvement qui est au cœur de l'esthétique proustienne me semble très, très intéressant. Costa-Gavras, effectivement, aujourd'hui, nous devions aussi avoir Alain Corneau, qui malheureusement, pour des raisons personnelles, ne peut pas être parmi nous. Maurice Bernard, qui est quelque part dans la salle, nous évoquait tout à l'heure, avant d'entrer ici, une projection qui avait eu lieu, projection très privée, avec Antonio Tabucchi, Alain Corneau, Marie-José, Maurice Bernard, de Nocturne Indien. Tu parlais de Joyce qui aurait dû voir le film de John Huston. Toi, tu as vu le film d'Alain Corneau et tu avais dit à l'époque « Oh, c'est mieux que le livre ». Vous, Costa-Gavras, vous êtes notre invité surprise et j'en suis très ému parce que j'ai toujours eu beaucoup de, non seulement de l'admiration, mais quelque chose qui arrive parfois, une espèce d'amitié intellectuelle, sans vous connaître, on se connaît depuis 5 minutes, mais il y a des créateurs qui nous donnent l'impression d'être des amis parce qu'ils réalisent des choses qu'on attend et qu'on est content de voir des gens avoir le courage de faire. Alors, je ne vais pas remonter dans votre lointaine carrière, vous l'évoquerez peut-être d'ailleurs, justement dans cette façon que vous avez eue régulièrement d'aller puiser dans des textes littéraires ou dans des textes de témoignages parfois. Mais j'aimerais vous interroger sur un film que personne n'a encore vu, d'autant moins qu'il n'est pas encore monté, mais sur son titre que je trouve intéressant, qui s'appelle Eden à l'Ouest, où je pense qu'il faut entendre une allusion à l'Est d'Eden de Kazan. Et du coup, je vous interrogerai assez volontiers sur ce que c'est que la citation ou l'allusion dans un projet cinématographique.
Bien, merci de m'avoir invité. Je ne suis pas du tout préparé pour les sujets. Vous avez prononcé les mots carrière. Permettez-moi de vous dire que moi, je les réfute toujours. Je pense qu'on ne fait pas de carrière dans le cinéma. On fait des films, on les rate, etc. Les carrières se font ailleurs, dans la politique ou ailleurs, mais au cinéma, c'est très aléatoire. Alors, en ce qui concerne le film, non, pas à l'Ouest d'Eden. Non, à l'Est d'Eden, non, ça n'a rien à voir. D'ailleurs, j'ai cherché à savoir pourquoi on avait appelé ce film. J'ai regardé ce film de nouveau des 15 ans. Et il n'y a aucune indication dans le film pour qui explique son titre. Alors, je cherchais dans l'histoire, je cherchais dans la bibliothèque de la Cinémathèque. Il semblerait qu'il aurait pris ce titre dans la Bible, quelque part. Alors, si d'autres, quelqu'un a des informations plus précises, je les accepte très, très volontiers. Nous, avec Jean-Claude Grimbert, on est parti sur une idée qu'on a eue depuis des années et pour faire ce film. On l'appelait Éden à l'Ouest, et c'est, je veux dire, même c'est un titre banal parce que ça dit un tout petit peu ce que ça veut dire. C'est pour le personnage principal du film qui veut venir à l'Ouest, qui veut venir à Paris, le paradis, ça n'est pas chez lui, c'est l'Ouest. Voilà. C'est vrai que beaucoup des personnes qui viennent des pays qui ont une forte immigration, c'est vrai que la France n'en a pas, donc c'est un peu plus difficile pour le comprendre pour les Français, mais pour les pays et qui ont une forte tendance vers l'immigration, l'Ouest, c'est-à-dire d'abord l'Amérique, et puis plus tard la France, l'Allemagne, etc., ou l'Angleterre, c'est le paradis, comparativement à l'enfer auquel ils vivent. Voilà. Alors, parler du film, il est difficile de parler d'un film qui est en train d'être monté. En deux mots, c'est l'histoire d'un jeune homme qui veut venir à Paris, qui traverse la Méditerranée, qui traverse l'Europe et qui arrive à Paris. Voilà.
Alors, auparavant, vous avez à plusieurs reprises recouru à des textes littéraires. Est-ce qu'au fond, qu'est-ce qui, dans un texte littéraire, dans une bibliothèque, dans le fil des lectures, qu'est-ce qui fait déclic ? Est-ce que quand vous lisez, vous êtes déjà attentif à ce qui pourrait faire un film, ou est-ce que ça tient à d'autres modes de hasard ou...
Je pense que chaque lecteur, en lisant un livre, en lisant une histoire, voit des images, essaye dans sa tête d'adapter, de voir comment sont les personnages, comment sont les lieux dans lesquels évoluent les personnages, comment est la psychologie, les rapports avec les autres, etc. Donc ils font instinctivement ou pour le simple plaisir, ils font l'adaptation. Moi, je pense qu'au cinéma, les adaptations, il y a plusieurs raisons pour lesquelles on fait une adaptation. Soit on a une idée, on veut raconter quelque chose sur un thème, sur un sujet, sur un personnage, et on cherche, on trouve un livre comme base qui permet, qui devient le véhicule de ce qu'on veut raconter. Donc on l'adapte, comme on dit. Et je pense, on adapte quoi ? On adapte à ce que l'on veut dire. Ou alors, on illustre simplement une histoire en passant de la littérature, c'est-à-dire en passant du récit en parole au récit en image. Mais là, comme on sait faire des images, on illustre très bien cela. Ça arrive souvent. Mais personnellement, quand décide d'adapter un livre, c'est parce que ce livre a quelque chose qui m'intéresse de dire directement, ou il n'a pas, mais le livre me permet de le dire. Voilà. C'est arrivé quelques fois. Alors, il y a deux types de livres aussi. Ou alors des livres qui sont basés sur des vraies histoires. Et là, ça pose un certain nombre de problèmes très éthiques et à côté des problèmes cinématographiques qui se la posent, d'adaptation, du rythme, etc., de la dramaturgie, pose des problèmes éthiques aussi qui sont très sérieux et qui peuvent changer complètement la forme du récit. Ou alors, c'est des simples romans. J'en ai adapté... Bon, j'avais fait un policier, donc c'était très facile. Parce qu'un policier permet une adaptation complètement libre. On peut même... Je dirais même que l'adaptation d'un livre policier permet toutes les libertés d'ajouter des idées qu'on veut ajouter, des personnages, etc., des situations, des lieux. C'est une liberté formidable. J'adaptais un livre de Romain Gary qui s'appelle « Claire de femme ». Il y avait des choses qui m'avaient intéressé dans les livres. J'avais vu Romain, qui je connaissais bien. Je lui ai dit, voilà, je vais adapter ça. Mais je ne vais pas faire exactement ton livre. Il m'a dit, moi, je suis jugé, c'est ce qu'il disait toujours, je suis jugé sur mon livre, je vends mes livres, et vous faites ce que vous voulez. Voilà. Et vous serez jugé, par moi. Voilà. Et c'est vrai que ça te donne une liberté assez extraordinaire. Bien. Et puis, il y a les autres livres qui sont basés sur des vraies histoires. Il y a eu L'aveu, il y a eu Z, et puis il y a eu Section spéciale et quelques autres, qui posent des problèmes profondément éthiques parce que les personnages du film, les situations existaient. Et qu'il ne fallait ni pour des raisons dramatiques, les déformer, ou pour des raisons de rythme, les changer. Je donnerai simplement un exemple, l'aveu par exemple. L'aveu, on a travaillé avec Georges Samprin pour l'aveu, et le personnage de London traversait une période de torture, en fait, difficulté, etc. Et à la fin du livre, il expliquait qu'il était finalement, qu'il s'en était sorti, et qu'il venait, il est venu à Paris, il vivait, etc., à Paris, et il a écrit le livre. Et on s'est posé la question avec Georges, est-ce que nous allons garder tout le long du livre cette espèce de suspense cinématographique, va-t-il s'en sortir de cette torture psychique et aussi morale, je veux dire, et aussi physique, ou pas ? C'est-à-dire tenir le spectateur, pas des sentiments, complètement des tensions cinématographiques, et des tensions cinématographiques, ou alors on va casser ça, et on a décidé de casser ça. Donc on a cassé ce qu'on appelle le suspense, on a cassé le film, et au milieu du film, on arrête, on dit voilà, il a survécu, il est venu en France, il se trouve à la Côte d'Azur, pas du tout torturé, dans une belle villa, etc., et il raconte son histoire. Pourquoi on a fait ça ? On a fait ça parce qu'on a voulu que les spectateurs, d'abord, subissent la tension au début et créent l'intérêt pour ce personnage, pour cette situation, et à un moment donné, arrêter les suspens, si je puis dire, la tension, pour dire, voilà, cet homme est arrivé ceci et cela, et raconter l'histoire de l'homme et la situation et la partie politique du film, disons. Voilà. Et dans un autre film qui s'appelle État de siège, qui est aussi basé sur une vraie histoire, mais c'est dans l'histoire originale, on a fait ça, le personnage principal, on le voit mort dès le début, précisément pour ne pas se poser la question, par la suite, va-t-il survivre, ou pour ne pas faire un polar. Voilà, c'est la différence avec le polar. Donc, si vous voulez, ça pose... Alors, l'autre problème d'éthique que cela pose, c'est le personnage du film. Est-ce que on respecte, comme dans l'aveu, ce que London était, ce que London a raconté dans son livre, ou alors on prend une position critique par rapport à London, par rapport militant communiste, qui décide, pour aider son parti, de se détruire en racontant qu'il est un traître. Est-ce qu'on prend une position critique par rapport à cette situation, par rapport au parti aussi qui pousse les gens à avec sa religiosité, arriver à tels excès, où on laisse le spectateur décider de cela? Donc on a décidé avec Georges de ne pas avoir une position critique, et à laisser au spectateur de décider de cela à la fin, s'il avait envie d'en décider ou pas d'ailleurs. Voilà. Je dis ça pour illustrer le problème éthique que nous avons, que j'ai eu aussi plus tard avec Missing. Missing, par exemple, c'est une histoire vraie d'un homme américain dont le fils est disparu au Chili. Et son ambassade, qui prétend l'aider au début, ne l'aide pas du tout. Et jusqu'au moment où cette personne comprend, M. Holman comprend que son ambassade s'en fiche complètement et que son fils, probablement, il est mort, c'est qu'on découvre à la fin. Alors, le problème éthique que nous avions, c'était le suivant. Nous avions des témoignages du père et d'autres personnes qui parlaient de la disparition et de cela. Mais nous avions aussi les officiels dont nous n'avions aucun témoignage. Et la question qu'on s'est posée très très vite, est-ce que nous allons créer des scènes de ces personnages pour dire ce qu'ils pensent, pour dire ce qu'ils... Et très vite, j'ai écarté cette possibilité parce qu'on n'avait aucun témoignage. Donc c'était là aussi une position éthique. On n'allait pas inventer des scènes pour renforcer notre récit, pour renforcer ce qu'on voulait dire, ce qu'on voulait presque, enfin, prouver, c'est que les officiels américains collaboraient complètement avec, pardon, il y a un téléphone qui s'est pas éteint, collaboraient avec les gens de Pinochet. Et on ne l'a pas fait. Voilà, c'était aux spectateurs, une fois de plus, d'en décider. Alors, les seules scènes que nous avons montrées avec les officiels américains, celles pour lesquelles nous avions un témoin, lequel témoin nous avait dit oui, ils ont dit ceci, ils ont dit cela, j'ai répondu à ceci ou cela, c'était notamment la famille. Voilà. Je pense que chaque film, chaque adaptation pose des problèmes tout à fait différents, mais avec un problème central, à mon avis, qui est on fait un film, et qu'un film doit avoir un certain rythme, et doit avoir des scènes qui se succèdent, c'est que la littérature, ce dont la littérature n'a pas besoin. La littérature peut s'étendre sur la description, peut s'étendre sur la psychologie des personnages, expliquer leur passé, revenir au présent, etc. Pour un film, c'est beaucoup, beaucoup plus difficile, sinon impossible.
Alors, Sergio Vecchio va tout à l'heure nous évoquer en particulier la figure, évidemment, au centre de la question que nous nous posons aujourd'hui, des rapports entre cinéma et littérature ou d'influence, c'est-à-dire le cas de Pier Paolo Pasolini. Mais auparavant, parce que au fond vous avez ouvert cette question et j'aimerais peut-être avoir une réaction d'Antonio, peut-être de Florence, c'est la question de ce qu'on appelle, peut-être vous réagirez à ce terme, enfin ce qu'on appelle l'engagement, ou en tout cas ce qu'on peut appeler la résonance politique d'une œuvre esthétique. Beaucoup de vos films ont rencontré cette, ont suscité, voire déchaîné parfois, cette résonance politique. Ça a été aussi le cas de certains livres d'Antonio Tabucchi. Je ne parle pas de ceux qui abordaient directement la question politique, comme Le Pas de Loi. Je parle en particulier d'un livre comme Père après temps, mais aussi, au fond, par rapport à au souci éthique qu'il peut y avoir d'emprunter à la réalité ou aux faits divers La tête perdue de Damasceno Montero, qui, là aussi, met en œuvre non seulement un fait divers, mais l'attitude, les versions officielles produites par la police par rapport à une tête ou à un corps décapité et donc privé ou séparé de sa tête d'un jeune homme dont on sait qu'il a été interrogé par la police portugaise. Donc peut-être une réaction d'Antonio sur toute cette dimension éthique et sur cette question de l'engagement qui parfois d'ailleurs arrive bien au-delà et pas bien au-delà de l'intention première d'un livre par exemple.
Personnellement, ce qui me regarde, donc, le mot est un mot sartrien, mais je pense que user d'une manière sartrienne, disons, le mot engagé, pour moi, c'est pas le cas. Donc, je pense que un écrivain est engagé quand il est sincère avec lui-même. Hein. Et vraiment, l'éthique, disons, et l'engagement est une chose qui regarde exclusivement l'écrivain ou l'artiste. Et n'a rien à voir avec les autres. Je m'explique. Si un écrivain est à sa fenêtre, à la fenêtre de son appartement, il voit un clandestin, un extra-communitaire qui demande de l'aumône dans la rue, et il sent vraiment, il ressent une émotion très très forte, et il ressent le besoin de d'écrire une page sur cette personne, là, il est. Il est engagé, hein, vraiment, il le fait. Mais s'il est dans la même situation, et ça se passe, il regarde par la fenêtre, il y a la même personne dans la rue, il y a aussi un horizon, les arbres, hein, une fleur, son pommier, où il y a des choux, des carottes. Et il les regarde parce qu'il les aime, parce que même les carottes existent. Il attire notre attention. Et d'ailleurs, Neruda a écrit une très belle ode à la carotte, pourquoi pas. Et il a envie d'écrire une chose sur la carotte. Mais il pense qu'il écrit la page sur le personnage. Mais là, il est plus sincère avec lui-même, il n'est plus engagé. Il doit écrire une chose sur la carotte. Là, c'est son engagement. Ça, c'est vrai. C'est le vrai engagement, être sincère avec lui-même. D'ailleurs, tout choix, au début, est déjà un choix éthique, si tu veux. Parce que le fait que tu choisis d'une manière instinctive un thème plutôt qu'un autre thème, le choix éthique a été fait a priori d'une manière inconsciente, mais c'est déjà un choix. C'est-à-dire, quand Costa disait c'est vrai, quand on prend une histoire vraie, ça pose des questions éthiques, mais le fait d'avoir choisi la voie ou d'avoir choisi Z, c'est déjà un choix éthique. Pourquoi il n'a pas choisi les soirées de Saint-Pétersbourg de l'escalier des maîtres et a choisi Z? Le fait d'avoir choisi est déjà un choix éthique. Donc tout est éthique, mais a priori d'une manière consciente. Et ça, c'est la vraie sincérité. Si tu la respectes, tu es sincère avec toi-même. Sinon, tu fais une chose fausse. Et ça, on se sent immédiatement dans les textes, dans les films, dans l'œuvre. Elle est faux. Ça brille immédiatement. Mais après, voilà, sous la peau, tu les ressens.
Et sur la résonance politique d'œuvre?
Écoute, pour ceux qui regardent la littérature, tu sais, disons, la résonance politique est importante si, pour toi-même, même, ou pour le petit cercle qui, disons, on peut parler d'un petit cercle pour la littérature. Ce n'est pas le cas du cinéma. Le cinéma, vraiment, c'est un moyen puissant, très important, pour, disons, les messages que le cinéma importe, parce que le cinéma, c'est le moyen qui touche vraiment un public énorme. Tandis qu'un livre, tu sais, oui, 4000 exemplaires, c'est rien. 5000 exemplaires, 100 000 exemplaires, c'est rien dans la population mondiale. C'est vraiment rien. La littérature ne peut pas avoir, disons, l'arrogance de dire « j'interviens avec mon livre dans une situation ». Tu le fais parce que tu ressens le besoin de le faire, mais les livres, c'est autre chose. C'est comme aux Olympiades, c'est pas les 100 mètres, tu comprends. Donc, les livres, c'est pas les 100 mètres. Les 100 mètres, c'est les médias, c'est les journaux, et les cinémas aussi. 200 peut-être, mais c'est la course courte. Tant, il intervient. Les livres, c'est la marathon. Après 50 ans, peut-être, on le retrouve. Il a une vie différente, il a un rythme différent. C'est ça, peut-être, là, si tu veux, les limites, mais aussi la force de la littérature et du livre.
Costa, peut-être une question. On parle beaucoup d'histoire du cinéma, on parle beaucoup d'histoire de la littérature. Ce qui manque parfois, c'est peut-être une histoire du public. J'ai un peu le sentiment justement que par rapport à ces films, je ne peux plus employer le mot engagé, mais enfin à résonance et à problématique politique, il y a des moments de la société qui rend le public réceptif, voire en attente à ça, et il y a des moments où le discours sur le cinéma se pince un peu le nez dès que c'est un peu en prise sur des questions politiques ou précisément engagées. Est-ce que vous avez ce sentiment, non pas au fil de votre carrière, mais de votre parcours ?
Sans doute. Mais je voudrais répondre à Antonio quand même à propos de ce qui est politique, ce qui n'est pas politique. D'abord, il faut définir qu'est-ce qu'on considère comme politique. Si on considère comme politique les relations avec les hommes politiques, ceux qui gouvernent le pays, voilà, et la littérature avec cela, c'est une politique. Mais je pense que si on considère que le comportement de chacun dans la vie, dans la cité, tous les jours, est politique par rapport aux autres, si on considère que dans un livre, quand on lit, c'est un des premiers livres que j'ai lu, c'est les Misérables, où tout d'un coup, je trouvais que ce prêtre extraordinaire, et Dieu sait si j'étais anticlérical, très jeune, dans un pays orthodoxe, etc., tout d'un coup, j'ai trouvé un prêtre qui était formidable avec Jean Valjean parce qu'il n'a pas trahi à la police pour ses chandeliers, etc. Tout d'un coup, voilà, pour moi, c'était... Et plus tard, le long du livre, on trouve des situations comme ça qui m'ont profondément touché en aimant ou en détestant. je pense que c'était une leçon politique formidable. Et on peut aller plus loin. On a parlé beaucoup de Joyce. Je pense que chez Joyce aussi, si on lit d'une certaine manière, si on reçoit un certain type de sentiments par rapport à la société, par rapport à soi-même, si on découvre un certain nombre de choses, là, on peut le considérer politique parce que ça peut vous changer dans la vie, ça peut vous faire réfléchir autrement. On a tendance aujourd'hui, avec des mots, être engagé, ou être, mais nous sommes tous engagés, d'une certaine manière. Pour survivre, c'est un engagement. Et puis, faire vivre sa famille, c'est des engagements les plus sérieux, finalement. Donc, on a l'air d'attacher aujourd'hui le mot politique et le mot engagement uniquement à si on décide pour quel parti nous suivons, etc. Donc, j'ai le sentiment, peut-être aussi ça vient de mes origines, grecques, qui où la politique, ça se faisait à l'agora. je pense que tout est politique, qu'on le veuille ou non. Et puis après, évidemment, y a des choses qui touchent directement le pouvoir. Mais là aussi, le pouvoir. Je dis très souvent, c'est quoi la politique? C'est le pouvoir, finalement. Et nous avons tous du pouvoir sur quelqu'un. Sur nos enfants, sur notre femme, sur notre employé, etc. Et puis, il y a toujours quelqu'un qui a du pouvoir sur nous. C'est-à-dire, cette pyramide de pouvoir, c'est la politique, finalement. Bon, c'est vrai qu'il y a le haut du pouvoir qui décide sur nous, mais en descendant le long de la pyramide, le pouvoir s'exerce en permanence. Et à mon avis, la politique, c'est comment nous exerçons ce pouvoir que nous avons sur notre voisin, et comment il est exercé sur nous. Voilà. Alors, donc, l'idée de tout de politique, ça n'est pas, en tout cas, ce qui me concerne.
Non, mais c'est
juste une phrase.
Je suis d'accord.
Et je pense que la littérature joue un rôle formidable, oui. Formidable dans notre monde.
Récemment, d'ailleurs, vous avez raison, c'est Aristote, c'est votre concitoyen, qui dit, l'homme est un animal politique. Mais j'avais lu, une université américaine a acheté les archives des KGB. Il a publié à Yale. Et j'ai lu une chose très, très intéressante. Staline, qui a des conversations qui sont sténographiées avec Beria. Et lui demande, Mandelstam, est-ce que Mandelstam est un bon écrivain, est un grand écrivain? Et Beria répond, il y a même des petits billets, il répond, Mandelstam est un bon écrivain, est un bon camarade. Et un peu de temps passe, et Staline répète la question, est-ce que Mandelstam est un grand écrivain? Et réponse, grand écrivain et bon camarade. Et finalement, Staline dit, j'en ai marre, et ça ne part pas s'il est un bon camarade. Je vais savoir s'il est un grand écrivain. C'est formidable, ça. Ah, il avait compris tout. Hein. C'est pas vraiment les paysans qu'on a l'image. D'ailleurs il parlait la même langue, mais le russe, mais il avait compris que l'autre avait il utilisait une autre parole. Il avait déjà compris Saussure en avance, disons. Il parlait tous les deux le russe, mais c'est ça qui l'inquiétait.
Florence, une réaction?
C'est-à-dire que dans le choix d'un film et dans le choix de l'histoire que montre un film, de l'engagement vers une histoire et vers un message et vers etc. Bon, on peut aussi partir de tout à fait la non-littérature. Là, on s'éloigne parce qu'en fait, on ne va pas dire que London et tout ça, on est hors littérature, on est dans une matière vive, une matière vive qui est de l'ordre du document, du réel, des hommes. Bon, et donc là, le cinéma est dans un état de liberté et de décision, sans doute plus grand que s'il part d'un écrivain qui lui-même est allé loin dans son propre engagement. Je veux dire, c'est autre chose. C'était pour revenir à littérature et... Bon. Par ailleurs, je trouve formidable l'histoire de la carotte. Ça, c'est vraiment la différence entre ce qu'on peut attendre d'une conscience solitaire, qui est celle de l'écrivain, avec cette conscience malgré tout collective, qui est celle du cinéaste, semble-t-il.
Alors, je crois que ça tombe très bien d'évoquer Pier Paolo Pasolini, qui précisément a fréquenté les deux rives littéraires, cinématographiques.
Je vais faire une évocation par ailleurs, sinon on finit à Pirandello, que Pasolini n'aimait pas. Non, si j'avais cru de donner une contribution au thème que peut-être j'ai pris trop à la lettre, qui influence, qui entre la littérature et le cinéma, j'ai pensé à Pasolini pour une raison très simple, parce qu'il a été un écrivain de récits, bien sûr, un poète qui a travaillé la poésie pendant toute sa vie, et dès qu'il a découvert le cinéma, qu'il appelait la langue de la réalité, il a cessé d'écrire des romans et des récits. On parlait avant de... Je veux me rattacher à l'actualité du discours que j'ai entendu faire. On parlait de, justement, et s'il y a deux artistes, je ne connais pas assez Madame Delay, mais Costa Gavras, je connais depuis que j'étais jeune, et vous étiez jeune aussi, et Antonio, que je connais dès qu'il a débuté, qui ont une carrière, bien que le mot ne soit le mot juste pour quelqu'un qui a la nécessité de s'exprimer. Mais de toute façon, ce qui est juste, c'est qu'on se pose le problème, disons, de l'engagement pour une raison de commodité. Peut-être que ce mot peut avoir quelque chose à faire avec Pasolini et sa position au moment où il commence à faire du cinéma. Et aussi, de politique, et même si on n'en a pas tellement parlé, aussi d'esthétique et de poétique. Je veux citer Pasolini quand il se définit, c'est la moitié des années 50 et le début des années 60, son début au cinéma, c'est avec Acatone, en 63, quand il se définit un écrivain réaliste. Et il commence par dire, dans un article qui n'est pas publié en France, en écrivain, il faut parler de réalisme en partant d'une définition en tant que fait formal. Il est nécessaire que l'analyse d'un livre parte de la forme. Pour la tradition littéraire italienne, en tenant compte surtout de la formation de la fonction de la langue et du rapport de la langue avec les dialectes. C'est pour ça qu'il se définit un écrivain réaliste, parce qu'il utilise soit la langue parlée avec une fonction expressive, c'est-à-dire un dialecte romain, soit cette langue un peu informelle qui, à son avis, est fonctionnelle. Qui avait été fonctionnel pendant tout le 20e siècle, à un anti-réalisme qui était fonctionnel au fascisme à sa fois. Et en plus, il conclut, et c'est le début des années 60, pour moi, le réalisme n'est pas un fait formel, mais idéologique. En ce moment, je considère réaliste un écrivain dont la perspective est marxiste. C'est alors qu'il y a, il avait déjà pratiqué le cinéma en tant que scénariste, en collaborant. Sa première épreuve fut avec Herman Holm, qui débutait aussi dans deux documentaires qui avaient été commissionnés par Enrico Mattei, qui était le chef de l'industrie d'État qui a été assassiné, dont la mort est une des mystères italiens et qui a fourni le sujet à un magnifique film de Francesco Rosi à propos du cinéma politique. Et puis, elle avait collaboré avec Fellini, sans signer, parce qu'il se méfiait un peu de Fellini. Et il a, enfin, je vais citer le titre d'un petit maître du cinéma italien, qui était Mauro Bolognini, La Notte Brava et La Giornata Balorda. Quand il passe au cinéma, je le disais, il y passe pour des motivations esthétiques, autre que linguistiques, disons-le. Et ça, je ne sais pas jusqu'à quel point est à faire avec le réalisme. Parce que son urgence, ce qui nous pousse à ce choix tellement radical, est due au fait qu'il a la conscience que le cinéma est vision, que le cinéma est image, c'est un fait d'image, est figuration. Et la figuration figurative qu'il a eue aux années de l'université, quand il était à l'aide d'un grand critique historien de l'art qui s'appelait Roberto Longhi, il a eu à travers les grands peintres qu'il appelle réalistes italiens de Giotto, de la fin du Moyen-Âge jusqu'à la Renaissance, de Giotto Masaccio, Piero della Francesca, omniriste florentin, surtout Pontormo, dont il reproduit les positions dans une séquence de la Ricotta. Donc ce que c'est est à faire avec le réalisme, avec l'engagement, je ne sais pas jusqu'à quel point. Le fait, c'est que cette première phase de son cinéma, il l'appelle, selon la définition de Gramsci, la phase du cinéma national populaire, qui comprend A Cartone, Mamma Roma, La Ricotta, Il Vangelo secondo Matteo, Uccellacci Uccellini. Donc ce sont des genres tout à fait différents. On passe d'une histoire qui touche le thème du sous-prolétariat des périphéries romaines, des borgate, qui était son monde privilégié, à l'épopée du Christ selon le langage de Matthieu, qui est le plus réaliste, à la fable, à la fantaisie, à l'apologue philosophe, un peu à la Voltaire aussi, de Uccellacci Uccellini, pour arriver à Édipe Roy. Et là, on arrive au 68. Je répète, Pasolini n'écrit plus pour le roman, n'écrit plus pour le récit. En 68, dont il ne cueille pas, je crois, la portée d'innovation, et ça lui a tiré aussi à l'époque de critiques à propos d'engagement direct ou indirect, en 68, il tourne un film qui s'appelle Théorème, qui est le premier film dans lequel il fait recours à des acteurs professionnels. Et qui est un film formalement très original, qui ouvre une phase qu'il définit provocateurement du cinéma impopulaire. C'est-à-dire qu'il ne veut plus être facile à être compris. Il veut poser des questions qui difficilement peuvent avoir une réponse. Et il écrit durant le tournage une espèce de journal de bord qu'il va publier l'année successive, 69, qui s'appelle Théorème, hein, qu'on a de la peine à définir en tant que genre, parce que c'est un peu sujet de cinéma, un peu scénario, un peu poème, un peu... C'est une espèce de mélange, c'est-à-dire que c'est une phase d'expérimentation de laquelle il s'était échappé pendant toute sa vie. Et je voudrais citer, parmi les titres du cinéma impopulaire, qui reflète aussi le théâtre, la découverte de la tragédie ancienne, son amour, sa traduction magnifique de l'Oresti, l'intérêt que l'Oresti, en tant que thème mythique, lui offre pour imaginer une Orestiade africaine, par exemple, c'est-à-dire la transposition du mythe grec dans l'actualité du Troisième Monde. Mais je voudrais arriver au dernier film, à Salo. Salo Sad, Salo ou la 120 journées de Sodome. Comment on sait, il le tourne 74. Il fait juste en temps finir l'édition et il est tué. Et qu'est-ce que c'est ce film? Il est facile de dire que c'est un testament. Il est facile et il est aussi un peu peut-être déviante, parce que ça pourrait faire penser que sa vie maudite, il a été persécuté vraiment par la justice à propos des contenus de son œuvre, soit littéraire, soit cinématographique. De toute façon, il y a dans Salo Sad une expression d'un désespoir total qui est exactement le contraire du cycle qui précédait. C'était un retour à la tradition de la narration, mais de la narration des autres, c'est-à-dire aux sources du récit, de l'histoire, de la forme récit, c'est-à-dire Boccaccio de Decameron, Chaucer, Canterbury Tales, ou bien Les Mille et une Nuits. Il arrive à s'inspirer aux 120 journées de Sodome de Sade, mais jusqu'à quel point l'œuvre du Marquis de Sade influence l'œuvre de Pasolini. Il l'influence énormément, bien sûr, mais pas du point de vue des valeurs formelles, comme il avait dit avant. Si, bien sûr, pour la radicalité des sentiments dont Sade est porteur. Sur le fond de l'Italie des années 70, au cours desquels les éléments d'innovation, d'ailleurs pas partagés, je disais avant, par Pasolini, du 68, auraient aussi abouti au terrorisme, et il avait une parfaite conscience de ce risque, Pasolini parle métaphoriquement du présent, de son présent, en faisant recours à un texte du XVIIIe siècle adapté aux années terribles des années 1944-45. Et la métaphore, qu'il repartit en quatre mouvements, presque de musique funèbre, qu'il appelle à la Dante le Gironi, nous reconduit à l'éternel retour d'un totalitarisme, d'abjection, de fascisme, de la merda. Je disais, c'est le dernier film de Pasolini. Et peut-être qu'il avait exprimé aussi l'intention de ne pas tourner, de ne plus tourner. Il a tourné entre long métrage et court métrage en 13 ans, 24 titres. Il avait une disperata vitalità. De travailler. C'est sûr que Pasolini avait exprimé l'intention d'abandonner le cinéma, peut-être pas définitivement, et de revenir à la littérature, c'est-à-dire à la littérature de narration, de la littérature de roman, de récit. Et quand j'ai affirmé qu'il n'a plus écrit pour le roman et le récit pendant son activité de cinéma, peut-être je n'ai pas dit la vérité. Il a découvert la langue de la réalité dans le cinéma. Il a quitté apparemment la littérature, au sens qu'il a cessé de publier. Il n'a publié que des scénarios, à part ses interventions politiques, ont été une importance énorme pour notre culture. Mais il avait conçu le projet d'un grand roman auquel il travaillait pendant toute sa frénétique activité de cinéaste. Et il voulait prendre le temps de l'achever. Je ne sais pas s'il l'aurait fait. Il nous a laissé un énorme scartafaccio qui a été publié intégralement presque, d'un roman qui s'appelle Petrolio. Petrolio est le pétrole. Son protagoniste est inspiré de Enrico Mattei. On a des pièces, des pezzi sparsi de cette narration. On a des chapitres achevés, mais quand on lit ce texte, on se rend compte que l'activité du cinéma a eu une énorme influence sur ça. Sur la forme de sa scriture, de son écriture, et a changé, aller chercher vraiment sa littérature.
C'est-à-dire que Petrolio change de nature esthétique par rapport à la narration abandonnée dans un premier temps, et c'est un Pasolini qui reviendrait à l'écriture littéraire, mais en étant imbibé d'esthétique cinématographique, c'est ça?
C'est ça, mais ce n'est pas seulement un problème d'esthétique, ce n'est pas seulement un problème formel. C'est que son activité de cinéma lui a ouvert des perspectives différentes. C'est-à-dire, on parlait d'influence du cinéma sur la littérature. Il l'a expérimenté en première personne. Il a donné... je pose par exemple à Antonio s'est posé ce problème. Il a donné une force moins déclarée du point de vue de la déclaration de poétique par rapport à ses romans des années 50 qui étaient provocateurement engagés. Et il lui donne une profondité d'analyse de la réalité qui l'entourait, qui est, si on veut utiliser encore le mot, plus authentiquement réaliste. C'est ça, je crois.
Alors, il y a un mot qui a été prononcé, qui, je crois, est important, c'est le mot de métaphore. On sera peut-être amené à y revenir, mais peut-être un commentaire sur... Alors, je sais que c'est difficile de commenter, surtout un peu rapidement, un film aussi énorme, déconcertant que Salo, mais peut-être sur Petrolio, qui a été traduit en français sous le titre Pétrole, ce livre non conclu, inabouti, dont peut-être l'édition même pose problème.
Le point de vue philologique, je pense que oui, peut-être on pourrait n'être pas d'accord avec l'édition italienne, mais ça ici n'a aucune importance. Plutôt, je pense que c'est vrai que ce que disait Sergio Vecchio, Pasolini est, pas seulement en Italie, mais je pense en Europe, l'écrivain, disons, le plus emblématique de cette pendule, non, donc de la relation très stricte entre la littérature et le cinéma, et entre le cinéma et la littérature. Donc, vraiment, c'est un exemple unique. Et à la fois, comment dire, assez apparemment simple, parce que quand il intervient avec... Comment dire, son art, son œuvre s'affirme par elle-même avec une violence, une évidence énorme, et en même temps avec une subcutanée, disons, une problématique assez complexe, parce que le discours que Sergio Vecchio faisait, c'était vraiment... Comment dire, un problème assez curieux que Pasolini nous a proposé. Il a pensé que, c'est un problème épistémologique au fond, qui regarde surtout Pasolini, mais qui peut nous impliquer aussi. Il a pensé que les mots, disons le langage que nous usons, c'était le langage, était insuffisant pour comprendre la réalité. Qu'est-ce que c'est la réalité? Voilà. La question épistémologique est un peu métaphysique parce qu'il a. Mais là, il revient au réalisme. Il pense que les mots bouteille hein, est moins efficace pour comprendre l'essence de la bouteille que l'image de la bouteille. Or, évidemment, c'est un faux problème parce que ce qui est l'essence de la bouteille, c'est la bouteille. Hein? Donc, quand il dit ah, mais le cinéma est plus réaliste de la littérature, il se trompe, bien sûr. Parce qu'il aurait pu faire un cinéma d'objet pour être vraiment réaliste. Il n'a pas compris que l'image de la bouteille a la même valeur que le mot bouteille. Voilà, ce sont une transcription de l'essence de la bouteille. Et avec ça, il crée un labyrinthe dans lequel il entre et finalement il ressort avec une simplicité, une efficacité qui met de côté tout son faux problème. C'est-à-dire, c'est une poétique a posteriori vraiment qui est très intéressante d'un point de vue théorique, mais qui est comme le sexe des anges, disons.
Curieux, c'est qu'il se posait a priori. La formulation du poétique qu'il n'arrivait jamais à résoudre, et il se foutait avec sa main. Voilà.
Non, c'est le même discours qu'il fait avec les dialectes. Il pense que les dialectes, comment dire, est plus profond que la langue officielle pour comprendre l'âme populaire, qui est un discours gramscien, très intéressant, d'ailleurs qui est complètement écarté par les politiques communistes qui l'essaient, etc. Et ça c'est la complexité de Pasolini qui nous intéresse comme intellectuel, mais que je pense que vraiment en effet hein, il n'a pas ressenti la comment dire la l'influence de lui-même en tant que cinéaste. Je trouve que Pétrole a le même type d'intervention sur la réalité, ou si tu veux, le même engagement, ou le même... que Ragazzi di Vita, que ses premiers romans, c'est-à-dire tout ce qui s'est passé entre-temps, appartient au cinéma. Et quand il revient à l'écriture, il reprend l'écriture. Bien sûr, il y aura des choses, comme on a dit pour des autres, techniques, formelles, etc. C'est vrai que c'est un brogliaccio, comme a dit Sergio Vecchio, et donc on ne peut pas l'examiner complètement. Mais à part ça, disons, à part l'effet du montage qui appartient au carnet, au journal intime, etc., le montage, et sinon, c'est le même, il a le même rapport avec l'écriture qu'il avait avec Ragazzi di Vita ou Una vita violente. C'est-à-dire, moi, personnellement, je pense qu'il y a deux Pasolini. Il y a Pasolini écrivain, il y a Pasolini scrittore. C'est comme Ingres. Il y a Ingres et son violon. Avec ça, je ne veux pas dire qu'il y a un violon d'Ingres dans l'écrivain hein, et un grand artiste dans le cinéma. Même si personnellement, je préfère le cinéma à l'écrivain, bien sûr. Et sinon, de Pasolini, j'aime plutôt, comment dire, ce côté de visionnaire, c'est une vertu assez rare dans normalement l'artiste a des antennes et a une intuition qui lui permet de prendre les choses avant qu'elles arrivent. Mais Pasolini, c'est vraiment un sorcier. C'est vraiment de la sorcellerie. Il est impressionnant. Il est impressionnant. Hein. Dans les années 70, il a déjà compris que les choses les plus laides de notre modernité, les côtés, disons, les plus sombres de la médaille de la modernité, parce que heureusement il y a aussi un côté un peu plus lumineux dans la modernité, comme dans toutes les choses. Son regard a été implacable. Et c'est ça qui te touche, Pasolini, surtout. Et ça n'appartient ni au cinéma, si tu veux, ni à la littérature. C'est du pur Pasolini, ça lui appartient à la personne.
On peut mentionner ces deux livres que sont, à ce titre, Les écrits corsaires et Les lettres luthériennes, qui regroupent justement ces interventions de Pasolini, notamment ce fameux texte « Io so, je sais », et cette espèce de clairvoyance affirmée au-delà des documents connus de ce qui peut se jouer dans les mécanismes de pouvoir, le pouvoir que lui appelait... Le palazzo. Mais au fond, à travers, et pour conclure, parce que le temps passe, à travers Pasolini, on retouche peut-être à une question derrière l'intitulé de cette rencontre, puisque, comme il a été dit même en préambule, il ne s'agit pas de la question uniquement de l'adaptation, elle a déjà été évoquée, qui trouve d'ailleurs son pendant, au fond, pour ainsi dire, jamais intéressant, qu'est-ce qu'on appelle la novelisation, hein, je veux dire, l'idée d'écrire un livre à partir d'un film. Je trouve personnellement qu'il n'y a rien de plus ennuyeux, c'est une invention de marketing oui, il y a un moment, il y a eu une mode comme ça, ça a été novelisation. Oui, c'est ce qui est évidemment une invention américaine, comme son nom l'indique. Mais derrière ces questions de l'adaptation et de la novélisation, il y a précisément la question de savoir comment, et peut-être Florence va nous répondre sur ce point, car vous êtes en retard sur votre temps de parole, va peut-être nous répondre à la question de savoir comment l'expérience du cinéma, notamment vous en avez eu une d'actrice, ce formidable film que j'ai revu hier soir pour les besoins de cette table ronde, Le procès de Jeanne d'Arc de Bresson, je dirais que là vous avez un rôle, une apparition très littéraire, très comme ça, avec ce langage coupant, mesuré, qui scande le film. Mais comment l'expérience du cinéma, notamment du cinéma avec Bresson, est-ce que ça vous a déterminé dans votre approche de l'écriture, dans la question du roman? Moi, je pars d'un constat personnel que je peux avouer, c'est que les romans qui sont encore écrits comme autrefois et qui me donnent l'impression justement de faire comme si le cinéma n'existait pas et n'avait jamais existé, me tombent des mains immédiatement. Et je pense que la littérature quand même est habité, est préoccupé par cette question du cinéma. Mais enfin, là, je réponds à votre place. Donc à vous.
Dans ma jeunesse, il y avait deux revues rivales qui étaient telles quelles échanges. Elles étaient aussi bien l'une que l'autre, mais l'une a eu beaucoup plus de succès que l'autre. Et je me souviens que le premier numéro de Change, c'était un collectif où il y avait Jean-Pierre Faye, Jean-Claude Montel, Jacques Roubaud, etc. Le premier numéro de Change, c'était le montage. Bon. Et il n'y a pas de doute que ça avait été un numéro historique, parce qu'au fond, ils mettaient le doigt sur l'apport faramineux, à leurs yeux, du cinéma, qui était finalement plus que ce que Bresson disait, à savoir une paire de ciseaux. Bon, à l'époque, c'était des ciseaux. Bon. Maintenant, sur l'expérience, je n'ai pas grand-chose à dire, parce que je l'ai souvent dit, bon, tourner avec Bresson, c'était obéir. Punto final. Bon. Alors, voilà, c'était faire exactement ce qu'il vous demandait de faire. Bon. Et c'est passionnant, d'ailleurs, de faire ça. C'est le contraire du travail d'un... Quand on écrit un livre, il faut tout décider. C'est atroce. T'as dit que là, c'est merveilleux, on vous dit, faites ça. Bon. Mais ce qui, en revanche, m'a beaucoup impressionné, c'est l'usage que faisait Robert Bresson des livres dont il s'inspirait. Parce que finalement, Bresson a été constitué par Bernanos avant tout, par Giraudoux, par Cocteau, par Diderot, bon, par Madame de Sévigné, c'est moins visible, mais ça existe aussi. Bon. Et l'usage qu'a fait ce pur cinéaste de la matière, bon, la façon dont il s'est approprié Dostoïevski et Tolstoï dans un cinéma hyper français qui de 1000 pages fait une heure, ça, c'est une expérience qui a été très impressionnante pour moi. Et voilà, punto.
C'est sur cette peut-être justement là-dessus, Costa, la façon dont la bibliothèque peut jouer dans l'appropriation ou dans l'élaboration d'un matériau filmique, bien au-delà de la simple adaptation. Est-ce qu'il y a des lectures, est-ce qu'il y a des esthétiques, des rythmes qui indirectement de votre bibliothèque ressurgissent dans la conception d'un film?
Sans aucun doute, oui. Il y a même quand on lit plus d'ailleurs quand on lit les écrivains américains que les écrivains français. En tout cas, pas les écrivains français contemporains, les écrivains français des années 30, 40, 50 aussi. Et là, il y a des idées sans arrêt. Il y a le rythme, il y a des personnages, il y a tout cela. Mais c'est très très net chez les Américains. Antonio parlait dans une préface qu'il a écrite de Hemingway. Il écrit pour le cinéma. Prenez un livre, par exemple, comme Les raisins de la colère, il est écrit vraiment comme un scénario. Et c'est très typique chez les Américains. Et évidemment, il y a une sorte de dégénérescence aussi. Il y a des écrivains qui écrivent pour le cinéma. Enfin, bon, ça, c'est plus de la littérature. Mais il est vrai que la littérature, je pense, qui est essentielle. Un metteur en scène ne peut pas ignorer la littérature et surtout les grandes œuvres littéraires. Oui, c'est un labyrinthe, tu as parlé des labyrinthes, Antonio, tout à l'heure, c'est un labyrinthe extraordinaire dans lequel on trouve des richesses formidables.
Hemingway est un écrivain très cinématographique, mais dont les adaptations au cinéma sont en général assez décevantes. Peut-être parce que le cinéma est déjà dans la littérature avec
voilà.
lui.
Voilà.
Mais peut-être qu'on va conclure sur le premier livre d'Antonio Tabucchi, puisqu'il a été question de montage. C'est l'influence considérable. L'autre jour, Manuel de Oliveira a évoqué Eisenstein. L'influence, l'utilisation considérable d'Eisenstein dans la construction ou reconstruction ou conception même de ce premier livre intitulé Piazza d'Italia, qui est, pour le dire rapidement, une espèce de fresque d'un siècle d'histoire italienne à travers le prisme d'une famille libertaire toscane et donc le rôle d'Eisenstein.
Oui, volontiers. D'ailleurs, c'est une chose que j'avais dit. Marie-Josée est un témoin. Mais ça, c'est une influence technique quand même très importante parce que, après, quand même, la littérature, j'aime un peu descendre, un peu baisser les niveaux, il faut le faire parce que sinon on pense que la littérature, c'est du talent, de l'inspiration divine. C'est aussi de la chaise. Il faut rester debout beaucoup de temps. Il faut travailler. Hein. Il faut travailler beaucoup. C'est une chose physique même. Donc, l'atelier, c'est très important. C'est une chose physique. Quand il y a des jeunes écrivains qui m'écrivent pour me demander de conseils, parfois, on m'envoie un manuscrit où on comprend les talents futur, disons, au présent, mais que a besoin de d'atelier. J'envoie un petit mot en disant que si l'unique conseil que je peux donner, parce que c'est très difficile de donner conseil dans ces matières, et si vous avez, j'ai dit, un menuisier dans votre quartier, passez visiter son son atelier. Mais le soir, quand il est en train de fermer, et observer les sols, combien de... Hein, c'est chez moi. Donc, voilà, techniquement, c'est important, parce que la littérature est aussi faite de ça, est faite de travail. Hein, et donc... Et finalement, la forme et la substance, c'est une dichotomie que on nous laisse suspecter. Mais j'avais écrit Piazza d'Italia d'une manière tout à fait, comment dire, normale, hein, un peu traditionnelle. Ouais, j'avais raconté une histoire. Et en même temps, c'était la première année qui sortait en Italie je ne sais pas comment ça s'appelle en français, les leçons de montage d'Einstein. Et j'ai... Et alors, je l'ai dit, j'ai une idée. Et j'ai dit, ah, peut-être ça va être différent, je m'amuse. Et j'ai commencé à découper mon livre. Je l'ai mis sous le sol de notre maison. Et avec Zé, on a fait matériellement un montage, disons. On était au montage avec les ciseaux, etc., avec les pages, voilà. Et ça est devenu autre chose. Mais je voudrais dire une autre chose. Ça, c'est une influence textuelle et donc qu'on peut vérifier. Mais je voudrais dire l'influence que le cinéma peut avoir, pas seulement, disons, sur l'œuvre, mais sur notre imaginaire. Ça, c'est encore plus grand. Et ça vient à propos de Pereira, parce que, bon, quand j'ai écrit Pereira, je ne fais pas la description du visage de Pereira. Hein. J'ai dit qu'il était un homme gros, presque obèse, qu'il était veuve, qu'il était cardiaque, etc. Mais il n'y a pas une description, comment dire, balzacienne de Pereira. Je n'ai pas dit le cheveu, le sourcil, etc. Mais quand même... Comme j'ai eu une convivance assez longue avec Pereira, je le connais très bien, j'avais très bien son visage présent. Hein. Et donc, quand j'écrivais Pereira, j'avais mon visage à moi de Pereira qui n'est pas décrit dans mon livre. Maintenant, quand je pense à Pereira, je vois le visage de Marcello Mastroianni. Elle s'est superposée à mon image de mon Pereira que j'ai écrit il y a 15 ans déjà, ou 12 ans. Voilà.
Merci à tous, à tous les intervenants. Merci de votre écoute, de votre patience et bonne continuation.